7:04.
BBC's Brian Hanrahan witnessed.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde. Bonsoir, Michael Thébault.
Bonsoir, Nicolas.
Pour commencer, Michael, direction l'Égypte. Toujours, c'est encore l'émotion de la discussion avec Stéphane Audouin-Rouzeau. L'Égypte toujours confrontée à la pire crise économique de ces 30 dernières années.
Oui, avec une cure d'austérité sans précédent. Cure censée, vous le savez, permettre de résorber la colossale dette du pays. Coupe dans les subventions à l'électricité, au gaz, au pétrole, instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le secteur économique. En novembre dernier, le gouvernement a même décidé de laisser flotter la livre égyptienne pour faire face à la pénurie de dollars. Résultat, la monnaie nationale a perdu près de 50% de sa valeur en quelques jours. À cela s'ajoutent des réformes drastiques pour, en théorie, remettre l'économie en marche. Mais pour l'instant, la seule chose qui marche et même galope, c'est l'inflation, à près de 20% aujourd'hui. Et les Égyptiens, dont plus du tiers de la population vivent sous le seuil de pauvreté, eh bien, doivent composer avec des pénuries de denrées de base, telles que le sucre, le riz, plus la hausse fulgurante des prix de l'électricité, du gaz, de l'essence, des médicaments. Bref, vous l'avez compris, quotidien de plus en plus difficile. Au Caire, pour France Inter, François Humfer Kataji.
À la télévision, sur les panneaux publicitaires ou dans les haut-parleurs du métro, les mêmes messages sont diffusés en boucle. Soyez patients, notre volonté est plus forte que notre crise. Mais devant ce supermarché où des produits alimentaires subventionnés sont habituellement disponibles, cette mère de famille ne cache pas son désespoir.
Les prix sont de plus en plus élevés et au marché, la plupart des produits sont inabordables. Il n'y a pas de sucre, plus de riz, rien. Le beurre est passé de 30 à 80 livres. Et par exemple, ce riz que j'ai avec moi, il est importé, il n'y a plus de riz égyptien disponible.
Et fin novembre, une femme de 30 ans ainsi est menacée de se jeter d'un immeuble de la place Tahrir, assurant simplement ne plus pouvoir nourrir sa famille.
Des scènes de désespoir qui se répètent dans le pays. Mais en raison de l'interdiction de manifester et d'un appareil sécuritaire menaçant, la rue reste silencieuse. Pour le président Sisi, ce silence est une victoire et il ne cesse de féliciter les Égyptiens pour, je cite, leur capacité à affronter la crise. Il promet que d'ici 6 mois, la situation va s'arranger. Pas convaincu, plusieurs syndicats et partis se sont récemment regroupés pour un changement de politique économique à travers la campagne « Nous voulons vivre ». Khaled El-Bashi est membre du bureau du syndicat des journalistes et participe à cette coalition.
Nos problèmes résultent d'une série de décisions catastrophiques. Imaginez, les gens se réveillent un matin et leur salaire a perdu 50% de sa valeur. En une seule décision, Sisi a pratiquement doublé le nombre de pauvres dans ce pays et personne ne dit rien. La peur de l'État fait taire les gens. Au moment où l'on réduit les taxes pour les très riches ou les grandes entreprises, on a une politique qui fait payer aux plus pauvres tous les problèmes du pays.
Alors reste l'humour. Sur Internet, les vidéos satiriques se multiplient où l'on voit des dealers de drogue se reconvertir dans le trafic de sucre, désormais introuvable dans les supermarchés. Mais un sujet reste particulièrement sensible, la hausse du prix de plus de 3000 médicaments. Devant l'hôpital Aser Al-Aini du Caire, Khaled Mouftar, originaire de l'oasis du Fayoum, vient d'emmener son père aux urgences.
Mon père est aux urgences. À l'hôpital, ils n'ont pas les médicaments qu'il lui faut. Je suis allé dans toutes les pharmacies du quartier pour en trouver, mais rien. Je suis allé visiter des dizaines de pharmacies. Il n'y en a pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis un simple fermier. Je viens d'un village. Je suis très pauvre et je n'ai pas les moyens.
Le gouvernement a passé un accord avec les laboratoires pharmaceutiques pour augmenter officiellement les prix de 15 à 20%. Les pharmaciens, eux, évoquent des augmentations de 50% dans les faits. Mi-janvier, ils se sont regroupés au siège de leur syndicat pour protester. Annie Evgeny, pharmacien dans un village de la province de Beheri, est l'un d'entre eux.
Quand les clients viennent dans la pharmacie, ils m'accusent d'augmenter les prix. Mais je ne peux rien faire. Et aujourd'hui, je me sens mal. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec les gens. Ces gens sont mes frères, mes sœurs, mes pères. Et c'est pour ça que je veux lever la voix contre le ministère.
Et en avril prochain, Nicolas, l'Égypte recevra la deuxième tranche des 12 milliards de dollars prêtés par le FMI pour libérer le potentiel économique du pays, selon Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui se dit convaincue que ces réformes économiques difficiles sont nécessaires et vont permettre, je cite toujours, d'offrir des gains de compétitivité au pays, favoriser les exportations et même le retour des touristes. Mais vous l'avez deviné, on en est très loin.
Jusqu'à présent, un tiers du budget de l'État était consacré aux subventions étatiques. Les subventions à l'électricité, au gaz et au pétrole ont donc été partiellement coupées, créant une hausse de prix fulgurante. Timothy Caldas est chercheur au Tahrir Middle East Institute.
Toutes les mesures d'austérité, c'est de l'inflation et cela met une pression énorme sur la classe ouvrière en Égypte. Les prix vont augmenter de façon dramatique. L'autre côté du plan, c'est d'augmenter les subventions pour la nourriture, augmenter les dépenses gouvernementales pour la santé, augmenter des dépenses dans l'éducation, favoriser les transferts de cash aux plus pauvres ou aux retraités. Si la seconde partie du plan est mise en place avec la même volonté que la première, alors l'Égypte peut s'en sortir. Mais c'est un si. Un grand si. Parce qu'en pratique, la seconde partie demande l'existence d'une grande institution qui n'a pas été développée. Pourtant, les gens ont besoin de cette protection parce que dans le cas contraire, cela va être pratiquement impossible pour certaines personnes de survivre.
Face à la gronde qui couve dans le pays, le Premier ministre vient d'annoncer plusieurs mesures afin de rendre abordables des produits de première nécessité comme le riz ou le sucre. Le pouvoir devra encore pendant de longues semaines jouer un jeu d'équilibriste pour restaurer l'économie du pays tout en évitant l'explosion sociale.
Reportage au Caire, signé François Hume, Ferkataji. Et la crise économique, Nicolas. Les produits de base trop chers, les coupures d'électricité, le malaise social et les clivages politiques. Eh bien, c'est aussi ce que vit encore et toujours le Liban. Et c'est même d'ailleurs en ces termes que L'Orient le Jour décrivait hier la situation du pays. Le grand quotidien libanais qui s'est donc lancé un défi. Trouver désormais chaque lundi une bonne nouvelle à annoncer à ses lecteurs. Et la première hier a été, figurez-vous, l'arrivée des vélos en libre service à Beyrouth. Bah oui, Paris avait ses Vélib, New York ses City Bikes, Montréal ses Bixi. Et bien maintenant, Beyrouth a ses Bike for All. Fort le chiffre. Une première station test avec 5 vélos avait été installée la semaine dernière en plein centre-ville. Succès immédiat. Une seconde station avec 100 vélos vient d'être inaugurée. 6 autres seront opérationnels dans les prochains jours. Et derrière le projet, un homme, Jawad Zbeiti. Son ambition, promouvoir la culture du vélo au Liban. Il avait déjà fondé Beyrouth by Bike en 97, compagnie de location de vélos aux particuliers. C'est lui aussi qui avait lancé le grand rassemblement du littoral dans la capitale libanaise. 70 000 cyclistes réunis l'an dernier. Les gens à vélo dégagent toujours des ondes positives, dit-il, contrairement à ceux au volant de leur voiture toujours énervés. L'homme d'affaires mise sur 5 000 bicyclettes, 25 stations à partir de mai prochain. Restera un petit détail à régler. Il n'y a pour l'heure que 3 pistes cyclables à Beyrouth.
Allez, rien à voir, Michael. On file maintenant à New York, 5 jours après l'investiture de Donald Trump.
Et pour vous donner le ton d'entrée de jeu, écoutez ce que dit cet élu new-yorkais.
Dans 4 ans, la seule chose positive qu'on pourra attribuer à Trump, c'est d'avoir inspiré toute une génération d'activistes.
Et ses propos, ce sont donc ceux d'un élu local de Brooklyn, célébrissime quartier de New York, où nous vous retrouvons, Charlotte Alix, pour précisément parler de ces nouveaux activistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors l'élection de Trump a poussé des centaines de milliers de personnes à entrer littéralement en résistance. Ça, on l'a bien vu samedi avec près de 2 millions de personnes dans les rues des États-Unis. Mais au-delà de ces manifestations, Charlotte, il y a donc aussi des initiatives citoyennes qui ont éclos partout dans le pays, et notamment ici à New York.
Oui, et pour en parler, je voudrais vous présenter Julie Torres Moscovitz. C'est une architecte de 45 ans. Elle se décrit comme progressiste et depuis l'élection, eh bien, elle est impliquée dans tout un tas de groupes d'action. Je l'ai suivie la semaine dernière. Je voudrais d'abord que vous l'entendiez.
Depuis novembre, mon quotidien consiste à aller vers les gens, à m'instruire, à entrer en contact avec d'anciens amis, de nouvelles personnes que je rencontre dans les meetings, des membres de ma famille qui ne pensent pas forcément comme moi, mais avec qui je trouve intéressant de me confronter. J'ai l'impression de passer par une expérience cathartique avec la population en général. Et alors que les jours passent, il y a de la colère, oui, mais aussi du collectif et de l'optimisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour réparer le Parti démocrate? Comment agir? Mais tout simplement de savoir que tous ces gens si différents sont dans l'action, ça m'apporte aussi de l'espoir.
Alors, ce qu'on entend dans ce témoignage, c'est que cette mobilisation en est encore à ses prémices. Mais ce qui m'a frappé, c'est la résilience. Ces Américains-là, les progressistes comme Julie, ont retroussé leurs manches et plutôt que de se laisser abattre, ils vont de l'avant.
Justement, Charlotte, en marge des énormes manifs, quelle forme prend cette nouvelle mobilisation? Comment ça se passe en coulisses?
Eh bien, par exemple, il se passe ça.
Combien d'entre vous a appelé un de ces élus? Waouh, regardez ça, quasiment tout le monde dans cette salle.
La personne que vous entendez, c'est le conseiller municipal Brad Lender, qui représente un quartier assez huppé de Brooklyn. Quelques jours après l'élection, il a invité ses administrés à se réunir dans une synagogue du quartier pour discuter de l'élection et pour voir ce qui pouvait être fait. Un millier de personnes ont répondu à l'appel.
On a réalisé qu'il y avait un vrai désir de s'engager dans l'action, pas seulement de pleurer et d'être en deuil. Bien sûr, il y a des quartiers où les gens sont plus directement menacés, dans les quartiers d'immigrés ou musulmans. Mais ici, je crois que les gens ont tout simplement peur pour leur pays.
Alors ce soir-là, c'était leur quatrième soirée d'action. Concrètement, ça veut dire que les gens se répartissent en groupes de travail. Certains, par exemple, réfléchissent aux actions à mener pour sauver Obamacare ou pour réformer le système électoral. D'autres, comme ici, aux moyens de lutter contre l'islamophobie et l'antisémitisme.
On est inquiet face à la montée des crimes motivés par la haine et face au risque que cela se banalise, que les gens deviennent insensibles. Donc notre but est simple, nous n'allons pas rester silencieux face à la haine. Donc quand un de ces crimes survient, nous allons tenir une veillée pour attirer l'attention.
Ben Wyatt, comme Julie et comme la majorité des participants ce soir-là, n'est pas un militant professionnel, mais tous, comme en convient Lisa, tous sont en train de devenir des activistes.
J'ai commencé à me projeter dans ce mot, je suis dans un des comités, donc ça fait partie intégrante de ma vie quotidienne.
Et c'est donc vraiment un mouvement grassroots, hein, comme on dit chez vous, c'est-à-dire qui vient d'en bas, qui vient des citoyens, et ça rappelle de l'autre côté de l'échiquier politique ce qu'on avait vu en 2009 avec l'émergence du Tea Party contre l'élection d'Obama.
Oui, il y a de ça, on retrouve des caractéristiques communes et avant tout ce côté spontané et local, ultra-local même, parfois de toutes petites réunions, par exemple ici, chez Julie, qui avait invité chez elle des amis et des voisins la semaine dernière, pour réfléchir à des slogans et confectionner des pancartes en vue de la grande marche de samedi.
Le côté positif de cette élection, c'est que ça va nous forcer à bouger nos fesses. Pour beaucoup d'entre nous, cette élection nous a réveillés. Parfois, il faut un cauchemar pour se bouger.
Cette élection nous a montré qu'on était peut-être trop confortablement installés. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment qu'on se batte pour ce en quoi nous croyons.
Alors, le Tea Party avait réussi à s'immiscer dans le Parti Républicain jusqu'à en faire bouger les lignes. Est-ce que c'est ce qui va se passer ici avec le Parti Démocrate? En tout cas, il est intéressant de voir que ces militants ont commencé à user des mêmes tactiques, notamment en faisant pression sur leurs élus pour qu'ils s'opposent férocement à la nouvelle administration.
Et Charlotte Alix en direct de Brooklyn à New York. Merci beaucoup Charlotte et Nicolas. À demain.
À demain, Michael.